Vous écoutez, on lit pour vous.
Contrôler un ordinateur par la pensée. Un texte paru le 4 juin 2024 dans Québec Science. Un jour, probablement, nous pourrons contrôler un ordinateur ou envoyer des textos par la pensée grâce à des puces implantées dans le cerveau. Bien que prometteuse pour aider les personnes en situation de handicap, ces technologies soulèvent des défis techniques et des questions éthiques majeures. Imagine un monde où tu peux envoyer des textos, publier sur les réseaux sociaux ou même passer un appel rien qu'en y pensant. Science-fiction? Pas tout à fait. Avec des électrodes implantées dans le cerveau, cela pourrait devenir réalité. En 2005, un patient paraplégique a été le premier à pouvoir contrôler une main artificielle grâce à des électrodes implantées dans son cerveau, ce qu'on appelle une neuroprothèse. Des neuroprothèses permettent aussi de pallier certaines formes de surdité ou de cécité, ou de permettre à des personnes en situation de handicap de contrôler des dispositifs comme un bras motorisé, un fauteuil roulant ou une prothèse. Depuis, les avancées continuent avec des sociétés comme Neuralink, fondée par Elon Musk. Leur objectif est de développer un implant cérébral pour contrôler un ordinateur par la pensée. Une neuroprothèse est un dispositif complexe composé de différentes parties pour établir une connexion entre le cerveau et une machine ou un ordinateur. Tout d'abord, elle est composée d'un réseau d'électrodes, des fils extrêmement fins, mis au contact des neurones du cerveau. Ces électrodes sont connectées à un système de communication qui peut envoyer ou recevoir des informations. Puis, un dispositif de traitement de l'information permet de coder ou décoder les données des électrodes. L'implant de Neuralink, appelé télépathie, de la taille d'une pièce de 2 $, permettrait de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la pensée. L'implant a tout d'abord été testé sur des cochons et des singes. Après un premier refus, la FDA, Food and Drug Administration, a autorisé les essais cliniques sur l'être humain en mai 2023. Ainsi, en janvier 2024, un premier volontaire humain a reçu l'implant. Après des entraînements, celui-ci arrive à déplacer le curseur d'une souris et à jouer au jeu vidéo Pong. Cependant, plusieurs mois après, des problèmes sont apparus. Seulement 154 des 1024 électrodes sont encore connectées au cerveau et l'implant se déplacerait dans le cerveau du patient. Surtout, cette étude soulève des questions éthiques. L'entreprise n'est pas totalement transparente sur les résultats et les critères d'évaluation. De plus, l'objectif final de Neuralink est-il d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap ou de commercialiser ces technologies à grande échelle pour améliorer les capacités humaines, ce que certains appellent le transhumanisme? La médecine actuelle interdit d'améliorer les capacités des humains et de nombreux défis techniques restent à surmonter. Ce n'est donc pas encore demain que tu pourras jouer aux jeux vidéo uniquement par la pensée. C'était « Contrôler un ordinateur par la pensée », un texte paru le 4 juin 2024 dans Québec Science.
Les prix littéraires dopent bel et bien les ventes. Un texte de Catherine Lalonde paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. Les prix littéraires ont des effets directs sur les ventes de livres et donc sur les espèces sonnantes et trébuchantes que gagnent les auteurs. Une étude toute neuve, commandée par la Banque de titres de langue française, BTLF, vient le démontrer, statistique à l'appui. En observant 30 prix, québécois, canadiens, français, internationaux, et 534 bouquins, de 2013 à 2022, on voit que les prix littéraires ont des retombées majeures sur les ventes des lauréats québécois. Elles augmentent de 269%. Un livre gagnant, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, connaîtra une hausse de 229% de ses ventes en librairie et de 104 % de ses ventes aux bibliothèques et aux écoles. Chiffre l'étude BTLF HEC de l'impact des prix littéraires sur les ventes au détail et aux collectivités dans Gaspard. Du côté des finalistes, l'effet positif des prix semble moins fort. On note une augmentation des ventes de 20 % en librairie et une diminution des ventes de 19 % aux bibliothèques. Mais la chercheuse Chloé Vanas précise que l'étude ici ne considère que les données à l'annonce des gagnants. Observer l'impact sur les livres finalistes, ça pourrait être pour une future recherche. Les livres québécois gagnent plus souvent des prix littéraires locaux. Ils sont avantagés, analyse Mme Vanas, doctorante à HEC Montréal, car l'obtention d'un prix littéraire va vraiment augmenter les ventes attendues comparées à un livre de l'international qui remporte une palme. Les ventes de livres québécois augmentent alors de 269 %. Les livres d'ailleurs, eux, gagnent 77 %. C'est la force de la marque locale et le pouvoir médiatique qui viennent amplifier l'effet pour les auteurs québécois. Ce sont là, avec l'obtention du prix, trois effets différents à prendre tous en considération, précise la chercheuse. Échelle de prestige. Au pays, les trois prix francophones les plus prestigieux sont le prix des libraires du Québec, les prix littéraires du gouverneur général et le Goncourt, selon les 10 éditeurs qui ont servi de comité d'experts pour les bases de l'étude. Au bas de l'échelle, on trouve le prix Aurora Boreal, la Lucas Award et le Rita Award. Quel prix a le plus de portée sur la vente de livres? Ça, on ne le dira pas car on n'a fait qu'un modèle statistique, explique Chloé Vanas. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir si les prix littéraires influencent les ventes, sans s'attarder à chacun de ces prix-là. Patrick Joly, directeur général de la BTLF, précise « Pour voir si c'est statistiquement significatif, ça prend un modèle. Et quand on modélise, on anonymise chaque prix en leur donnant plutôt une cote de popularité selon le nombre de mentions médiatiques retrouvées par la banque de données Eureka et une cote de prestige. Pour connaître les effets d'un prix spécifique, c'est un autre type d'étude qu'il aurait fallu faire. Ainsi, le Pulitzer, le Goncourt, le Diller et le Médicis sont de cet échantillon aux côtés du prix Interallié, du Nebula et du Grand Prix de l'Imaginaire. L'alchimie des ventes. Aussi, toutes les caractéristiques d'un livre influencent ses ventes, rappelle Mme Vanas. Si le lauréat est un auteur québécois connu ici, ou s'il arrive plutôt d'ailleurs avec un bouquin traduit, ce n'est pas comparable. La date de publication du livre entre en jeu, tout comme le pouvoir de marque de l'éditeur. On note une corrélation, précise la chercheuse. Souvent, un livre d'ici va gagner un prix littéraire d'ici. Et les prix littéraires plus prestigieux vont vraiment avoir de plus importantes retombées. À cette échelle, pour le marché canadien francophone, les prix québécois se comparent d'ailleurs aux grands prix français. Le prix des libraires du Québec et les prix littéraires du gouverneur général obtiennent, tout comme le Goncourt, la plus haute note de 7 à l'échelle de prestige établie pour les besoins de l'analyse. Le prix littéraire des collégiens, 5,2, accote à cette aune le Renaudot des lycéens, 5,1. Et le Grand Prix du Livre de Montréal, 4,7, est le quasi-équivalent du Giller, 4,8. Chose certaine, un prix littéraire relance la courbe des ventes d'un livre, surtout pour un titre qui a perdu son statut de nouveauté, résume Patrick Joly. Comme lectrice, quand elle n'est pas dans ses recherches, est-ce que Chloé Vanas est influencée par les prix? Oui, répond-elle en souriant, surtout quand je ne sais pas ce que je veux lire. Le Fémina, le Renaudot et le Goncourt attirent son attention. J'aime les prix plus près de moi, aussi, comme le prix littéraire des collégiens, note-t-elle, confirmant par l'anecdote ses conclusions de chercheuse. C'était « Les prix littéraires dope bel et bien les ventes », un texte de Catherine Lalonde, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
L'heure est grave. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 28 octobre 2024 dans Le Devoir. De toutes les questions dont il convient de discuter en société, comment celle du changement d'heure d'été réussit-elle à se retrouver à la surface de l'actualité au point de susciter des consultations publiques? Heure d'hiver ou heure d'été? Décidez. Cela fait penser au débat passionnant qui avait cours dans les années 1970 sur la couleur de la margarine par rapport à celle du beurre. De mémoire, un de nos grands moments de débat de société passionnée. Nous vivons au cœur d'un monde où tout est chronométré. Chaque moment est découpé, saucissonné, comme une matière première à exploiter. Nos pas comme nos repas, en passant par les battements de notre cœur la nuit. Tout est mesuré, programmé, planifié, structuré, tranché. Le métro, le boulot et le dodo, autant que le lolo et les bobos. À quelle logique cela obéit-il? « It's the economy, stupid », résumait le conseiller de Bill Clinton à l'époque de sa course à la Maison-Blanche. Sous ce grand chapiteau, nos vies sont marchandées au prix de sacrifices qui n'ont pas été consentis. Vous ne l'aviez pas compris? Clinton le répétait. « It's the economy, stupid ». Voici que l'État, avec l'apparat publicitaire des grandes annonces, vous accorde un droit inestimable. Non pas celui de choisir quand et comment vous userez de vos forces, mais celui, combien grandiose, de choisir l'heure de votre lever pour vous rendre au travail et celle de votre coucher quand vous sombrerez de fatigue, lessivé par votre journée. Entre les deux, strictement rien ne sera changé. Mais vous aurez le droit de choisir le régime d'heure dans lequel vous vivrez. Pareille consultation ne touche jamais à l'essentiel, en agitant tout au plus pour la galerie le hochet d'une liberté factice. C'est un peu comme avec le droit de vote. On vous dit que c'est un privilège, une chance inouïe. Vous vous en félicitez. Comme le chantait Richard Desjardins, il nous manque seulement le droit de choisir quelque chose de vraiment différent. Heure d'été ou heure d'hiver? Croix de bois ou croix de fer? Bonnet blanc ou blanc bonnet? Les journées n'auront toujours que 24 heures, où chaque instant doit être optimisé et exploité au nom de la sacro-sainte productivité. Nous courons après le temps, essoufflés à la fin de chaque journée, tandis que notre existence se trouve atrophiée par de supposés impératifs qui ne sont guère remis en question. Nous sommes contraints dans nos vies par les gardiens des horloges. Ils nous forcent à planifier et à minuter la moindre de nos activités. Votre sommeil? Réglez votre réveil. Vos vacances? Elles débutent à une heure dite et se terminent à l'heure prescrite. Pensez à prendre rendez-vous entre deux obligations pour vous reposer au spa, puisque même le repos s'échange au tarif horaire. Et n'oubliez pas, tant qu'à faire, de planifier vos arrangements funéraires. Nous vivons dans une incapacité de vivre permanente, enchaînée que nous sommes au contrôle du temps. Notre monde s'est retrouvé, tout progressivement sans même s'en rendre compte, enfermé dans le boîtier d'une montre géante dont il n'arrive plus à s'extraire. La montre est devenue le monde lui-même, plus que jamais fermé, impénétrable, imperturbable. Nous n'en sortons pas. Chronos, le maître du temps, nous avale tel un ogre. Nous sommes la matière de son système digestif. Il s'engraisse de ce qu'il nous soustrait. As-tu une minute? Il est probable aujourd'hui plus que jamais qu'on vous réponde non. Le temps de chacun est compté. Tout presse. Qui aujourd'hui a le luxe de son temps sinon les puissants, eux qui se félicitent plus que jamais de se promener avec leur argent métamorphosé en des aiguilles de montres coûteuses dont le mouvement sonore de prétention d'éternité et de puissance? À travers le hublot de ces cadrans, les puissants surveillent la bonne marche des engrenages de leur pouvoir. À défaut de trouver une manière de se libérer collectivement de cette adhésion forcée au découpage chronométré de nos existences, certains ont fait de leur vie des îles irriguées par l'astrologie, le symbolisme, le mysticisme ou la croissance personnelle. Par un ensemble de réalités parallèles, qui se présentent comme autant de quêtes thérapeutiques tournées vers soi, on nous invite à croire qu'il est possible, par sa seule volonté, de se soustraire de tous les maux de la terre. Certains cultivent aussi un optimisme aux vertus hypnotiques. Il consiste à se répéter que, peu importe la situation, tout va bien aller. Après tout, n'est-ce pas, c'est à l'individu de faire preuve de flexibilité, de s'adapter, d'incarner le changement, de se soumettre pieds et poings liés à une époque qui lui ordonne de se livrer à des tours renouvelés de souplesse dorsale. Chacun est ainsi convié à devenir une sorte de candide des temps modernes, clamant que, pour peu qu'on soit positif et réceptif à ce que l'on nomme pudiquement le changement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Autrement dit, nous préférons la baguette magique à l'analyse logique. Dans notre société, perdre la notion de l'heure est devenu aussi grave que de perdre la tête. Échapper à la mesure du temps qui passe, c'est se trouver hors du réel qu'on nous impose, c'est se perdre. Tout est perdu, dit-on, pour ceux qui perdent leur temps. Car le temps, c'est de l'argent, martèle un des principes du capitalisme que nous subissons. Est-ce parce que le temps manque au plus grand nombre que l'humanité se retrouve désormais dominée par 500 entreprises, une concentration de pouvoir sans précédent dans l'histoire? Alors quoi? À l'année, vous préférez vivre à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver? C'est un peu comme vous demander si vous désirez une piastre ou 430 sous. Le véritable enjeu n'est pas de régler toutes nos montres à la même heure, mais de reprendre possession du temps. C'était « L'heure est grave », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 28 octobre 2024 dans Le Devoir.
Une industrie qui veut reprendre du poil de la bête. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 2 novembre 2024 dans La Presse. Valoriser la laine d'ici plutôt que de la jeter. Au Québec, la laine de nos moutons est jetée, en grande partie. Les producteurs la brûlent ou l'enfouissent parce qu'il n'y a rien de mieux à faire avec cette laine piquante, malodorante et sale, sous-produit de l'agneau que l'on mange ou de la brebis que l'on trait pour faire du fabuleux fromage. Bien sûr que les producteurs aimeraient que ça serve, lance Marion Dallaire, directrice générale des producteurs ovins du Québec, qui représente 937 éleveurs dans la province. Mais présentement, vendre la laine pour une utilisation commerciale n'est tout simplement pas rentable, précise la représentante des éleveurs. Pour qu'elle soit utilisée à grande échelle, la laine devrait être traitée, ce qui est compliqué et cher. Mais les choses pourraient changer. Un groupe travaille à retricoter les maillons de la filière laine qui s'est dissipée à coups de délocalisation à l'image de l'ensemble de l'industrie du textile d'ici, ce qui a mené à une perte de savoir-faire et à une perte d'intérêt pour une partie des gens de ce secteur jadis vibrant. Il va falloir commencer par bâtir une communauté autour de la production locale, parce qu'elle a disparu, explique Yann Raymond, président de Duré, une manufacture de laine de Princeville, près de Victoriaville. Il y avait jadis une industrie lainière dynamique au Québec. Malgré les défis nombreux, Duré se lance dans la production de chaussettes faites avec de la laine québécoise. Si les volumes augmentent, il y aura des économies d'échelle, ce qui est impossible dans une structure artisanale. Les produits locaux industriels seraient un peu plus chers, mais pas le double du prix du même bas de laine néo-zélandais. Présentement, quand on parle de bas québécois, on est au marché de Noël. On veut sortir de là et aller fidéliser l'acheteur occasionnel, dit Yann Raymond. Duré n'est pas seul à participer à la relance. Jaubert est devenu un spécialiste de l'agneau malgré lui. Le fondateur de la marque de vêtements Milo et Dexter s'est intéressé à la bête lorsqu'il a voulu mettre la main sur de la laine canadienne. « J'étais abasourdi, » dit-il. Les industriels à qui il s'adressait lui ont pratiquement ri au nez. L'entrepreneur en a fait une affaire personnelle. Il s'est lancé dans une véritable quête qui a donné naissance à une gamme de produits, Milo et Dexter, le projet Laine. Milo et Dexter existent depuis 5 ans. Dès le départ, l'entreprise montréalaise voulait travailler avec des matières premières locales, canadiennes. « Nous avons eu une surprise avec la laine », relate Jaubert. Les fournisseurs lui ont appris qu'il n'y avait pas de laine canadienne pour une utilisation industrielle. Et les vêtements de Milo et Dexter ne sont pas tricotés à la main. Jaubert s'est mis à faire la tournée des rares moulins canadiens qui travaillent encore la laine locale à petite échelle. Il a rapidement compris que la laine était souvent perçue comme un sous-produit indésirable. Alors que pour moi, dit-il, c'était un exemple d'économie circulaire. Milo et Dexter transforment désormais 5000 livres de laine canadienne par année, notamment avec la filature Le Mieux de la Beauce qui travaille la laine québécoise. Pour moi, c'est la chose à faire, explique Jaubert. Je serais très heureux que les gens s'approprient ces produits et c'est pour cela que l'on travaille sur le développement. Ça demande beaucoup et ça va peut-être prendre du temps. Mais je sais maintenant que c'est possible. La relance. La laine nous représente. Personne sur la planète ne devrait être plus associé à la laine que nous. Marie-Ève Faust est professeure à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM. Comme bien des personnes impliquées dans cette histoire, c'est la dévalorisation de notre laine locale qui la motive. « Ça n'a pas de bon sens, » dit-elle. « On importe la laine et on jette la nôtre. » Le 7 novembre 2024, une centaine de personnes ont participé au premier bal de laine au musée McCord Stewart. Une occasion de réunir différents maillons de la chaîne. L'une des premières étapes de cette relance est de trouver les forces des toisons québécoises et de bien cibler le message qui viendra avec le produit. On est au tout début et c'est le temps de définir ce qu'on veut faire avec nos laines, dit la professeure Faust. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont fait une brillante démonstration de ça en valorisant et commercialisant la laine Mérinos, cite-t-elle en exemple. Au Québec, on a 20 races de moutons, énumère Marie-Ève Faust, qui peut assurément toutes les nommer. Les éleveurs n'ont plus de tondeurs et ils n'ont plus personne pour acheter leur laine. Jusqu'à récemment, plusieurs producteurs québécois vendaient leurs ballots de laine pour 3 fois rien à une entreprise ontarienne qui l'exportait en Chine par l'entremise d'un courtier. Ce qui est la pire des hérésies, explique Jane Underhill, du Conseil canadien de la laine. On vend notre laine en Chine, où elle est transformée, et elle revient ici. La Chine a des infrastructures qui permettent d'accepter la laine dans un état lamentable, car elle peut être traitée et intégralement utilisée. Quand on voit des chandails faits en Chine, explique Jane Underhill, c'est souvent de la laine de mauvaise qualité mélangée avec de la laine de bonne qualité pour donner quelque chose de moyen. La pandémie a toutefois mis la hache dans ce réseau de revente et plusieurs producteurs sont désormais pris avec leur laine et s'en débarrassent. Le sujet est tabou, parce que la plupart des gens s'entendent pour dire que ça n'a pas de sens. Anna Baudet fait partie des éleveurs du Québec qui valorisent la laine. Elle est même arrivée à l'agneau par la laine. Elle, qui tricotait, peinait à mettre la main sur de la laine québécoise à son goût. Elle devait acheter de la laine de la Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre, qui, parfois, avait été teinte au Japon. C'était loin de ses valeurs de consommation. Elle a donc créé la ferme Taïga de Wakefield, en Outaouais, et est désormais à la tête d'un troupeau de 33 bêtes. Et elle confirme, la rentabilité en production ovine est difficile à obtenir et l'élevage est exigeant. Il faut que les producteurs agricoles aient du soutien, dit l'entrepreneur agricole. Selon elle, si une industrie lainière se retissait, ça serait bénéfique pour tous ses maillons. D'autant qu'une partie des consommateurs sont avides de produits locaux, aussi pour leurs vêtements. La laine cadre parfaitement dans cette philosophie de consommation. « C'est l'hiver 6 mois par année ici, » dit Anna Baudet. « Je veux avoir de la laine pour faire des vêtements à porter durant ces mois froids. » 176 000. C'est le nombre de moutons au Québec, au deuxième rang des provinces ayant le plus de moutons, après l'Ontario, 274 000, et devant l'Alberta, 171 500. Suivent le Manitoba et la Saskatchewan, avec autour de 80 000 moutons chacune. Statistique Canada, Conseil canadien de la laine. C'était une industrie qui veut reprendre du poil de la bête. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 2 novembre 2024 dans La Presse.